rencontre sur Radio Orient.
Vous êtes bien sur Radio Orient. Le Maroc est bien entendu sous le choc après le séisme dévastateur vendredi soir dernier à Marrakech. Un séisme de magnitude 7. La communauté internationale a fait part de sa solidarité. De très nombreuses ONG se sont rendues sur place dans un communiqué du cabinet royal annonçant le deuil national. Il est précisé que le roi Mohamed VI, le prince héritier Moulay Hassan ainsi que le premier ministre Aziz Harhanouche ont participé à une séance de travail samedi après-midi au Palais Royal de Rabat. Le bilan n'a cessé de s'alourdir depuis la secousse qui a été ressentie dans de nombreuses villes du pays, dont à Casablanca, où réside le journaliste et universitaire Omar Brooksy. Il nous fait part de son témoignage. Entretien.
Moi, j'habite dans un immeuble de 10 étages et à un moment, on sent que ça tangue, que l'immeuble est complètement en train de tanguer, et bien sûr, moi, j'ai deviné rapidement que c'était un tremblement de terre parce que j'ai déjà vécu ça en 2009, mais pas avec la même intensité. Donc, comme tous les habitants de cet immeuble de 10 étages, comme je vous l'ai dit, on est immédiatement sorti. Tout le monde est sorti dehors, et déjà, en sortant, on a constaté qu'il y avait une foule énorme à Casablanca. Moi, j'habite le quartier de Bourgogne, qui est un quartier très, très peuplé, très dense. Et donc, il y avait une foule de personnes dehors, des enfants, des femmes, des vieilles personnes. Tout le monde était dehors, tout le monde, hein, je dis bien tout le monde. Et donc, voilà, on suivait ça, comme tout le monde, à travers les réseaux sociaux. Évidemment, on a appris par la suite que l'épicentre était bien loin de Casablanca et que c'était dans la région de Marrakech. Et après, on va apprendre que, en fait, les informations tombaient au compte-gouttes, hein. Après, on va apprendre que l'épicentre se situe dans une région montagneuse qui s'appelle vers le vert, ce qu'on appelle l'Haouz, la région de l'Haouz. Les régions les plus touchées, ce sont des petits villages qui ont subi de plein fouet cette tragédie, et qu'il s'agit vraiment d'une secousse très 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 forte, et que les grandes villes les plus touchées sont Marrakech notamment, Agadir et Taroudant aussi, qui est pas loin d'Agadir. C'est là où il y a eu le plus de dégâts humains et matériels. Et donc, après, on va apprendre que Marrakech, notamment, a été particulièrement touchée, et notamment la ville, l'ancienne ville, je veux dire, la médina de Marrakech, à cause notamment des vieilles constructions qui datent de plusieurs siècles. Et même la Koutoubia, le minaret de la mosquée de la Koutoubia, qui date du XIIe siècle, a été touché. La Ménara aussi, et bien sûr les murailles de Marrakech. Et après, à travers ma famille qui habite à Rabat, j'ai appris aussi que Rabat a été aussi touché, des villes comme Salé aussi. Des collègues à la faculté de Stad, de la ville de Stad, qui est à 60 km, m'ont informé aussi que Stad est touché. Donc c'est un tremblement de terre qui a touché une bonne partie du territoire marocain, avec le bilan que l'on connaît.
Et d'une violence inédite au Maroc.
C'est une violence inédite. Selon les sismologues qui se sont relayés dans les télévisions marocaines et étrangères, il s'agit quand même d'un séisme de 7 degrés à l'échelle de Richter, et c'est-à-dire plus fort que celui d'Agadir en 61, où il y a eu entre 15 000 et 20 000 morts. La seule caractéristique qui est entre guillemets heureuse, c'est que l'épicentre n'était pas près d'une grande ville, mais dans des régions plus ou moins montagneuses de l'Haut Atlas. Donc c'est ce qui a joué un rôle important dans le fait que le bilan n'est pas comparable à celui d'Agadir, mais quand même, le matin, on était très très surpris, et on n'a pas beaucoup dormi puisqu'on est monté vers 4h, 5h du matin, la peur au ventre, et la majorité des gens ont dormi dehors, à Casablanca, sur les plages, dans leur voiture, etc. Et on a appris le matin les premiers bilans, qui étaient des bilans effrayants. Et bien sûr, c'était pour tout le monde un choc énorme.
Avec un véritable élan de solidarité, vous l'avez constaté lorsque vous-même vous avez passé la nuit dehors.
Tout à fait. Ce n'est pas surprenant, les Marocains sont solidaires et ils ont un sens civique très très élevé et connu. Dès qu'on a appris qu'il y a un manque important de sang, les Marocains se sont précipités vers les hôpitaux, et notamment à Casablanca, Rabat, bien sûr Marrakech, pour donner du sang, et à telle enseigne qu'au bout d'un certain moment, les responsables médicaux ont dit que, bon, pour l'instant, il y a quand même une bonne quantité et il a fallu attendre pour que les gens redonnent de nouveau du sang. Donc, il y avait un grand élan de solidarité, mobilisation de plusieurs associations que je connais particulièrement, notamment la Banque alimentaire de Karim Tazi, qui est un industriel qui est sur place et qui suit la situation sur place. Donc, il y a vraiment une mobilisation. L'armée s'est déployée selon un communiqué des forces armées. Donc oui, il y a une mobilisation, malgré le manque de moyens, bien sûr. Il y a un manque de moyens qui se manifeste surtout à travers la difficulté d'accéder aux régions les plus touchées. Ce sont des régions désenclavées, pas d'infrastructures. Les routes sont fragiles et pour la plupart coupées à cause de ce tremblement de terre. Donc oui, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas facile. Mais on fait ce qu'on peut.
Quels sont les principaux besoins suite à une telle tragédie ?
Tous les besoins sont nécessaires. Il y a même des populations qui, à travers les réseaux sociaux, qui demandent du pain, de la nourriture, bien sûr des couvertures, parce que dans les montagnes, il fait, c'est vrai, la journée il fait très chaud, mais le soir il fait très 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 froid. Le contraste est terrible, ça peut passer de 40 degrés à moins 4, moins 5 le soir. Tous les besoins sont nécessaires. Le fait de reloger les gens, de leur donner des couvertures, comme je l'ai dit, des vêtements, de la nourriture, les éloigner des zones à risque, toutes les formes d'aide sont les bienvenues. Surtout pour désenclaver les gens et pour apporter, et surtout, bien sûr, il y a encore beaucoup de corps, beaucoup de personnes qui sont sous les décombres. Et il faut un travail très minutieux et très professionnel, entre guillemets, pour sauver ce qui peut être sauvé et pour arracher les gens des décombres. Et essayer encore de sauver des vies, puisque malheureusement le bilan n'a pas arrêté de s'élever et de s'aggraver. D'heure en heure, on a des bilans toutes les 2-3 heures, et c'est un bilan qui ne cesse de s'aggraver.
Et un soutien psychologique est mis en place pour les victimes et les proches des victimes ?
Non, je ne suis pas. Non, il n'y a pas de soutien. Vous savez, ce type de soutien psychologique n'est malheureusement pas aussi fréquent, n'est pas aussi présent que dans les pays européens. Par exemple, ici, la priorité des priorités, c'est de sauver des gens, c'est de les sauver des décombres de leurs maisons, qui sont déjà des maisons fragiles, et surtout de les désenclaver et de pouvoir accéder à ces villages reculés, et bien sûr de la nourriture, des couvertures, une présence de l'État. Vous voyez, c'est ça. Une présence de l'État, une présence de l'autorité. L'aide internationale est sollicitée, bien sûr. Elle doit être. Les portes du Maroc doivent s'ouvrir à toutes les aides. Et heureusement, tous les États, hein, ont proposé leur aide et ont exprimé être prêts à aider à tout moment, même certains États comme l'Algérie, qui a ouvert exceptionnellement son espace aérien pour les avions qui apporteraient de l'aide au Maroc. Donc tous les États sont prêts à nous aider, Et donc, il faut ouvrir les portes du Maroc pour, bien sûr, apporter de l'aide à la population.
Ce soutien international de la part des États, mais aussi de la part de toutes les ONG, de nombreuses entreprises également, cela, bien entendu, est source de réconfort pour les habitants du pays.
Tout à fait, tout à fait. Toutes les formes d'aide, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, sont les bienvenues. Et je pense que tout cela, bien sûr, va contribuer de manière directe, je dirais, efficace, directe, à ce que cette catastrophe ait le moins de dégâts possible.
Vous êtes universitaire, vous êtes journaliste. Comment couvre-t-on un tel événement, Omar Bourksi?
Ça dépend. J'ai appris à travers des collègues qu'il y a une forte descente, forte arrivée de médias internationaux qui sont là. Évidemment, la télé marocaine, surtout, livre des données et des informations officielles, comme le nombre de victimes, livre des photos, des images, des douars et des villages les plus touchés. Les Marocains suivent également beaucoup Al Jazeera, qui est très présente aussi dans la région. Surtout parce que comme les gens ne pouvaient pas, avaient peur d'aller chez eux, dans les maisons, donc ils suivaient tout, surtout par les réseaux sociaux, surtout par les réseaux sociaux. Et pour ceux qui pouvaient, par les télévisions, surtout la télévision marocaine et Al Jazeera, qui couvre H24 ce qui se passe dans les régions les plus touchées.
Comment sont appréhender les jours à venir suite à cette catastrophe?
Selon les informations que nous avons, là aussi de la part des experts sismiques, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres secousses, mais de beaucoup moindre degré, beaucoup moins de force. Et ça rassure un petit peu les gens, même si je viens d'apprendre que dans certaines villes comme Settat et Agadir, il y a eu quelques secousses, mais vraiment pas très fortes et pas très inquiétantes. Le problème, c'est qu'il y a un sentiment de crainte permanent. Et c'est normal, ce sont les conséquences d'un séisme qui est assez étrange. Il est décrit aussi par les experts comme un séisme très, très particulier, par sa force, mais aussi par sa nature, puisqu'il a touché une large partie du territoire marocain, et même en Mauritanie, il l'avait ressenti, paraît-il. Mais en tout cas, c'est rare quand même qu'un séisme soit ressenti à un tel niveau territorial. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un sentiment de crainte permanent qu'on ressent tous.
Vous êtes en contact avec vos proches, avec votre famille, vos amis. Quand vous parlez avec eux, qu'est-ce qui revient dans leurs propos?
Oui, bien sûr, on est en contact avec d'abord nos familles et aussi des amis qui nous appellent. Je me suis réveillé, j'ai trouvé plus de 40 messages de personnes. Vous savez que le Maroc compte une diaspora très importante en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Donc, il y a une utilisation massive des réseaux sociaux et évidemment des proches, des amis, des collègues qui sont au Maroc et qui sont à l'étranger et qui appellent, qui demandent des informations. Bien sûr, c'est comme je vous l'ai dit, il y a une inquiétude qui restera quand même quelques jours, ça c'est sûr, jusqu'à ce que les choses se tassent, comme on dit. Et c'est ça le sentiment prédominant, c'est-à-dire même si on est un peu rassuré par ces experts qui disent oui, le plus dur est passé, etc. Mais ça reste quand même assez inquiétant parce que la secousse telle qu'on l'a sentie, moi je vous dis, l'immeuble où je vis là, c'est un grand immeuble de 10 étages, il a tangué sous mes pieds comme une boîte d'allumettes, hein. Donc c'était impressionnant. Et donc évidemment, cette inquiétude et cette peur ne va pas disparaître d'un moment à l'autre. Et il faut un certain temps pour que les gens soient rassurés et pour que la vie aussi prenne son cours.
Merci beaucoup, Omar Bourksi. Fin de cet entretien après ce séisme dévastateur vendredi soir à Marrakech, séisme qui a été ressenti dans de nombreuses villes du Maroc. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
rencontre sur Radio Orient.